France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir les répliques du séisme Trump ici en France. Avant même l'annonce officielle de la victoire du milliardaire à la Maison Blanche, le Front National se réjouissait ouvertement d'un résultat qui, selon lui, en appelle d'autres, sous-entendu, vous verrez bien en mai prochain. Alors question, peut-on faire le parallèle entre la situation américaine et ce qui se passe chez nous, en France? Le rejet des élites est-il comparable des deux côtés de l'Atlantique? Que dit cette victoire de Trump des attentes du peuple face à la mondialisation dans nos démocraties? Pour en parler à nos côtés, le président de l'Institut Via Voice, François-Mickey Marty, auteur notamment d'un livre intitulé « Les oubliés de la démocratie », c'est chez Michalon. Avec nous également François Cusset, professeur d'études américaines et historien des idées politiques, auteur de « La droitisation du monde », ces deux éditions textuelles. Sans oublier Aurélien Colli, ancien correspondant de France Inter à New York, aujourd'hui au service politique de France Inter, où il est plus précisément chargé du Front National.
Claire Servagen. Le téléphone sonne.
Bonsoir à tous. Alors, Marine Le Pen a salué après l'élection de Donald Trump une excellente nouvelle. Nicolas Sarkozy a parlé d'une défaite de la pensée unique, un besoin de frontières et de réguler l'immigration pour Manuel Valls. Depuis hier, les réactions à la victoire de Donald Trump ne manquent pas en France et ailleurs. On va tenter de voir comment interpréter ce vote et voir s'il y a lieu de tirer des leçons au-delà des États-Unis. François Cusset, bonsoir.
Bonsoir.
Comment interprétez-vous cette victoire de Donald Trump ?
Avant de l'interpréter, il y a d'abord un choc, une surprise immense, qui effectivement invalide tout ce qui ressemble à un sondeur ou un commentateur politique.
On donnera la parole à François-Mickey Marty sur la question des sondages tout à l'heure. Mais au-delà du choc...
Moi, je l'interprète plutôt comme une destitution du processus démocratique, des institutions démocratiques américaines, puisqu'elles ont rendu possible cette curieuse et effrayante élection. À la fois les institutions elles-mêmes, et puis bien sûr le système médiatico, publicitaro, marketing, dont il s'est très habilement servi.
François-Mickey Marty, donc président de l'Institut Via Voice, puisqu'il vous interpelle, François Cusset, sur les sondages. On était dans la marge d'erreur ces dernières semaines, mais enfin, Donald Trump n'a jamais été donné vainqueur. D'où vient le problème ?
Oui, je crois qu'il y a un cumul d'éléments différents. Bon, d'abord, il y a l'élément à prendre en compte qui sont les pourcentages de voix, qui sont quand même en réalité très serrés, le décalage entre le pourcentage de voix et puis le nombre de grands électeurs aux États-Unis. Ensuite, il y a, je crois, on pourrait en parler très longtemps. Donc, pour faire simple, il y a trois éléments qui sont à prendre en compte. D'abord, le fait qu'aux États-Unis, souvent, les sondages sont réalisés par téléphone et on a des gens, comme on a eu en France, on a une dizaine d'années, des gens qui n'osent pas déclarer, en l'occurrence, des votes en faveur du candidat républicain. Le deuxième élément, qui est un élément plus technique, concerne la construction des échantillons et des données représentatives des populations, c'est-à-dire en particulier le fait d'être assuré ou non d'avoir toutes les catégories de la population, y compris des ouvriers modestes, y compris des ouvriers contestataires, etc. Et puis un troisième élément, au-delà de ces facteurs techniques, qui est beaucoup plus profond et qui concerne toutes les démocraties, qui est le désir de déjouer par un suffrage des pronostics établis. On voit ça en France depuis très longtemps. Ça entre en résonance avec le clivage entre les élites et les populations qui souffrent, qui se sentent oubliées précisément. Et plus on a un pronostic qui semble établi, et plus ça incite, on peut dire de manière très légitime, une partie des électeurs défavorisés, qui s'estiment négligés, à faire entendre leur voix contre globalement ce système qui a l'air de considérer qu'avant une élection, les jeux sont faits. Et là-dessus, il y a un phénomène qui s'amplifie élection après élection, qui a des racines très profondes. De fait, il y a des rapports de force politiques, mais quand vous avez ces rapports de force politiques-là, ça incite une partie des gens, en gros, à renverser la table. Voilà.
François Cusset, rapidement, après on va au standard de France.
Oui, donc j'ajoute quand même, je pense que l'élément d'interprétation principal, c'est l'échec historique de la gauche. Je ne sais pas si on peut appeler gauche le parti démocrate américain, enfin en tout cas Hillary Clinton. Mais ce qui est sûr, c'est que le choix de la fameuse troisième voie, hein, à partir des années 90, donc qui serait ni socialiste, ni directement ultralibérale, incarné par son mari, Bill Clinton, Schröder en Allemagne, Blair en Angleterre, etc., a directement produit ces inégalités, cette rage, cette colère, qui se traduit désormais voilà dans une sorte de catharsis identitaire, raciste, sexiste. Mais c'est vraiment une responsabilité historique des gauches de pouvoir, c'est peut-être un oxymore, qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
On va évidemment en reparler, mais on part au standard. C'est Jean-Pierre qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Jean-Pierre, bienvenue à vous.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Mais ce que je voulais dire, moi, je suis horrifié par la réaction de la classe politique et des intellectuels français, parce qu'on a l'impression qu'il y a une déconnexion de plus en plus grande entre ces gens-là, qui sont censés nous gouverner, censés connaître ce qui se passe dans la population et dans le pays, et il suffit de descendre dans la rue pour voir ce qui se passe. Je ne comprends pas qu'on soit horrifié. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont la plus grande démocratie, la plus ancienne démocratie du monde, quand même. Nous, ce n'est pas notre cas, puisque dans la période sombre, on n'a pas été une démocratie. Mais il suffit de descendre dans la rue pour voir ce qui se passe, entendre les gens. Ce n'est pas surprenant et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde est surpris, ébahi, et même on va faire croire que le système américain n'est pas un bon système démocratique. Je m'inscris en faux contre ces réflexions. J'entendais encore votre interlocuteur précédent. C'est pas un déni de démocratie. C'est simplement, au contraire, une preuve de démocratie. Et vous allez voir que tous les Américains vont gouverner ensemble et qu'il y aura encore une fois une solidarité qui va se créer et qui va... Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc pour vous, c'est un message clair de la part des électeurs. Peut-être un mot Aurélien Colli, vous qui avez vécu longtemps aux États-Unis et qui suivez le Front National ici pour le service politique de France Inter. Est-ce que vient de dire Jean-Pierre ?
Ce que dit Jean-Pierre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ce décalage qu'il y a entre l'interprétation que font les élites et puis la perception qu'a le peuple, on le sent ce décalage immédiatement quand on est hors des grandes villes de France. Quand je fais des reportages, je vais sur le terrain pour rencontrer, essayer de comprendre pourquoi le Front National perce dans certaines régions, et bien tout de suite on a ce discours, ce sentiment d'être dans la réalité et d'avoir des élites politiques, médiatiques, qui en sont complètement déconnectées. Et en plus de ça, cette diabolisation, si je puis dire, par les élites de ces choix, elle renvoie une image catastrophique aux électeurs potentiels du Front National, c'est-à-dire qu'ils ont en plus de ça l'impression que parce qu'ils sont proches d'une Marine Le Pen ou d'un Trump et qu'on les prend, eh bien on les prend pour des imbéciles. Et ça, c'est encore pire comme phénomène.
François-Michel Martelly, est-ce qu'on peut vraiment faire le parallèle entre ce que défend Trump et le programme du Front National ? Parce que Marine Le Pen s'en est quasiment revendiquée dès le début. Se ressemble beaucoup.
Ça se ressemble. Alors sur le fond, on ne peut pas tout à fait faire le parallèle parce qu'il y a des positions qui sont différentes. Mais dans les racines du problème, pour autant qu'on puisse parler d'un problème, il y a des similitudes très fortes. Au fond, les leviers, puisque je crois qu'on est notamment ici pour parler de ça, les ressorts du vote en faveur d'une candidature comme celle de Trump ou les ressorts du vote en faveur de Marine Le Pen ont des similitudes fortes. Alors, il y en a deux qui sont très... Il y en a beaucoup. Il y en a deux qui sont très structurantes. Effectivement, le discrédit des élites, et je dirais au-delà des élites, des gens qui privilégient la raison et qui ont souvent en pratique des niveaux de diplôme assez élevés et qui sont considérés comme incompétents. Alors, ce qui est considéré comme blessant, au fond, vous prétendez être compétent avec vos diplômes, mais en réalité, vous n'êtes pas capable de résoudre nos problèmes. Donc ça, c'est un premier point qui est très fort. Et le deuxième point qui est très fort aussi, c'est celui d'un sentiment d'humiliation. Vous nous dites ce qu'il faut penser, vous nous empêchez de dire ce que l'on ressent, voilà. Je vais vous donner juste une anecdote très courte, mais qui est une anecdote humaine dans le cadre du livre dont vous parliez tout à l'heure. J'ai rencontré un certain nombre de
les oubliés de la démocratie.
Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré un monsieur dont je me souviendrai longtemps, qui m'a dit, qui est un monsieur qui vivait en Touraine, dans une situation sociale difficile, avec des problèmes matériels, qui avait un ressentiment important envers ces élites qui prétendent améliorer les choses et qui ne le font pas. Et puis ce monsieur m'a dit, vous voyez, à côté de chez moi, il y a un camp de Roms. Il m'a dit, le problème de ce camp de Roms, c'est pas que ce monsieur n'aimait pas les Roms particulièrement, c'est que ça faisait, les Roms font du bruit. Voilà. Ils rentraient tard le soir, etc. Et ce monsieur m'a dit, alors non seulement je suis en galère, non seulement on fait rien pour moi, mais en plus, si j'envisage d'émettre une critique contre ces personnes qui, de fait, me posent des problèmes dans ma vie quotidienne, je vais être taxé d'un monsieur pas fréquentable, etc. Donc, il y a un sentiment de non seulement de relégation, mais aussi de frustration. Et la frustration appelle la colère, et la colère peut appeler des votes extrémistes. Voilà. Il y a une mécanique là. Alors, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion qui ont été faites aux États-Unis lors du jour du vote, etc., il y a des leviers qui sont très, très similaires. Avec un dernier élément, je puis j'arrête, mais un dernier élément qui, quand même, dont on parle assez peu, curieusement, je ne sais pas pourquoi, que montrent très bien les enquêtes qui ont été réalisées là aux États-Unis post-électorales, à savoir l'influence quand même du terrorisme. C'est-à-dire que les électeurs de Donald Trump sont des gens qui très massivement sont préoccupés par le terrorisme et qui, pour 80% d'entre eux, estiment que jusqu'ici, les États-Unis n'ont pas bien réagi face à la menace terroriste. Donc il y a effectivement ce substrat sociologique. Et par ailleurs, un contexte quand même qui est celui de la nécessité d'une réaction forte face au terrorisme, et pour ça, on a besoin d'hommes forts.
François Cussé, il y a quand même un paradoxe dans ce qui vient de se passer aux États-Unis. Comment se fait-il qu'un milliardaire puisse incarner celui qui vient défendre les plus pauvres face au libéralisme ?
L'entrepreneur a toujours été la figure du héros aux États-Unis, hein, beaucoup plus que le sportif ou l'acteur. Voilà, Steve Jobs était un peu le messie hein, quand il est mort, souvenez-vous. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement, alors il y a un mythe Trump qui est évidemment totalement faux, ce qu'on sait tous, puisqu'il n'a pas créé d'entreprise, mais hérité de son père.
Qui lui avait donné juste 1 million pour démarrer.
Voilà, mais bon, il y a beaucoup de malhonnêteté dans ses récits, mais enfin bon, ça c'est du storytelling très habile. C'est d'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais une immense différence là aussi franco-américaine, c'est-à-dire que on peut jouer à comparer les agendas idéologiques qui sont tout à fait opportunistes à mon avis de Marine Le Pen et de Donald Trump, mais Donald Trump veut gérer le pays comme une entreprise, l'administration fédérale comme une entreprise et considère les États-Unis comme une entreprise. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un acteur extérieur effectivement qui veut la mort de, disons, de l'autonomie de la sphère politique qui finalement ne sert plus à rien, là où Marine Le Pen est absolument dans le système qu'elle dénonce puisque elle est dans ce marigot politique depuis sa naissance. Voilà, donc elle vient de cette sphère politique. Donc ça c'est important. Après, élite et peuple, moi je vous avoue que je me méfie un peu de ces catégories un peu générales. Il est sûr qu'il y a des gens qui prennent la parole, nous par exemple autour de ces micros, on n'est pas du tout de l'élite, mais là où d'autres pourraient la prendre effectivement. Peuple, je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'il faudrait par contre, c'est se demander pourquoi certaines questions sont placées au centre des débats et des polémiques préélectorales et deviennent les questions sur lesquelles se décident les élections. Et là, le rôle est plutôt, à mon avis, celui des politiques bien sûr, mais relayés par les médias, et les médias jouent un rôle absolument central, mais aussi l'ensemble de la société économique, enfin les... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire, par exemple, des Roms, qui sont moins de 20 000 en France, un problème national? Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire du terrorisme un danger réel aux États-Unis, forteresse antiterroriste s'il en est, en tout cas depuis 2001? Voilà, ou qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est un vote de pauvre, le vote Trump contre Hillary Clinton, alors que les chiffres sont très clairs. Elle a perdu 10%, effectivement, elle est passée de 65 à 55% des ouvriers de la Rust Belt, les États industriels, mais 55%. Vous m'avez compris. C'est-à-dire que ça reste ce parti démocrate, certes, tout ce qu'on veut, corrompu et libéral, qui a la majorité des votes populaires. Donc, on dit beaucoup de bêtises, et je me méfie de ces catégories élites et peuples qui font un peu un match comme ça, binaire, alors que ça, à mon avis, c'est pas de bande.
On va essayer de dire moins de bêtises. Aurélien Colli, un petit mot avant d'aller au standard.
Oui, vous parliez terrorisme, vous parliez médias. Le cocktail des deux aux États-Unis, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus anxiogène sur cette thématique du terrorisme que les médias américains. Les chaînes d'information en continu, c'est terrible. Vous regardez ça pendant quelques heures, vous avez l'impression que les États-Unis sont à feu et à sang. Et on a un peu ce phénomène qui a commencé à exister, à apparaître en France depuis les attentats, avec aussi des chaînes d'information. Et on ressent cette peur sur le terrain, dans des endroits où il n'y a absolument aucun immigré, où il n'y a absolument aucun problème d'islam, etc., etc.
Nous partons, comme promis, au standard. C'est Silver qui nous appelle depuis la Gironde. Silver, bonsoir, vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Bonsoir, excusez-moi, je voulais juste
dire... Ne vous excusez pas.
Je vous remercie pour votre sujet ce soir et vos autres émissions. Et surtout, dire peut-être que le résultat vient aussi du manque de vision. Que cette vision, on l'avait avec Malcolm Moore, qui a bien écrit un article quelques semaines auparavant, et qui a dit que Trump allait gagner pour des raisons qui sont plutôt réalistes, comme dit votre intervenant, une partie de la population se sent perdue. Et le vrai problème, moi, j'ai, c'est quand j'entends, au lendemain de la victoire de Trump, un parti socialiste qui voudrait rallier toute la gauche, sachant qu'elle n'a pas fait de promesse de gauche, elle n'a pas fait la promesse qu'elle avait faite. Est-ce que un moment à l'autre, si nous ne voulons pas avoir un candidat comme Trump ou Marine Le Pen, est-ce qu'il ne faudra pas tout simplement revenir à des fondamentaux sociaux dans notre société qui en fin de compte, sont passés que tout le monde veut. Voilà, tout le monde veut, mais en fin de compte, on s'en moque. Et hélas, on avait choisi entre quelqu'un qui veut du protectionnisme, si on veut, Donald Trump, face à quelqu'un qui voulait continuer à faire une politique libérale. Et en fin de compte, c'est déconnecté totalement du reste. Et sur ce point, pardon, et sur ce que vous venez de dire, monsieur, je ne sais plus comment vous appelez pour les questions des élites et du peuple. Les élites, c'est peut-être celles qui voudraient nous expliquer comment on fonctionne tous les jours, comment on travaille dans une entreprise, et en fin de compte, nous font une leçon, là où en fin de compte, les gens savent travailler. Et ça, c'est peut-être le problème des élites. Pas de l'élite, c'est peut-être pas vous l'élite, mais c'est ceux qui nous expliquent qu'il n'y a qu'un seul système économique depuis des années, et qu'en fin de compte, peut-être se trompe, et sûrement se trompe, mais continue à nous faire croire qu'il n'y a que ça. Voilà. Merci. Et je voudrais savoir comment on fait si on continue à croire que le libéralisme est la seule voie pour lutter contre les gens comme Trump.
Grand merci, Silver, pour cette longue question, fort intéressante, qui partait de Michael Moore, et qui a fini par la gauche, et puis les élites, François Cusset.
Je suis tout à fait d'accord avec Silver. L'impression d'être entouré de donneurs de leçons, effectivement, élite ou pas, qui explique quand même, souvenez-vous d'une anté-prédécesseur de Donald Trump nommé Margaret Thatcher, qu'il n'y a pas d'alternative au système économique, socio-économique existant, enfin qu'elle a contribué à mettre en place quand même, puisque c'était pas le même avant, qu'il n'y a plus d'alternative, le fatalisme voilà, qui en a résulté. Le discours tenu par les partis dits de gauche dans les différentes campagnes produit cette colère très directement, puisque d'abord, de fait, sur le terrain social, les alternatives non seulement existent, mais sont en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formes de vie, d'organisation, il y a du coopératif, il y a plein de choses qui sont très différentes de ce qu'on raconte vu d'en haut. Et puis, plus profondément, ça veut dire que si les forces de la réaction, parce que c'est les forces réactionnaires dont on parle, Trump, Le Pen, ça en commun, l'emportent, c'est que, quel est le contraire? Vraiment, l'antonyme de réaction, c'est progrès. Les forces de progrès n'osent plus mettre en avant cette vieille notion de progrès, comme si c'était une illusion, il était en panne, et que, en l'absence d'alternative, il fallait voilà le ranger dans le tiroir et essayer de bricoler une sorte de réel politique. Je crois que c'est vraiment ça, les deux notions là qui sont vraiment en jeu dans ce genre d'affrontement, c'est réaction contre progrès.
Alors, pour rebondir sur ce que disait Silver tout à l'heure, François-Mickey Marty, il posait la question quand même sous-jacente de quelles leçons en tirer pour nos politiques. Ici, il y a, les gens font le parallèle clairement entre ce qui vient de se passer aux États-Unis et la situation française. Quelles leçons doivent en tirer les politiques? Est-ce qu'il y a une nécessité de renouvellement, le fait de se préoccuper des vrais problèmes des gens?
Il y a de nombreuses leçons. Il y a d'abord des questions concernant le fonctionnement de la démocratie. On vient de réaliser une étude d'ailleurs en partenariat notamment avec France Inter sur les solutions pour la démocratie de demain. Il y a une aspiration à transformer la démocratie pour inclure davantage l'expression du grand nombre et surtout de sensibilités différentes dans la société au sein de la démocratie pour que au moins des voix différentes soient entendues. C'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y a des choses, je pense, plus profondes dans notre structure de société. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure des raisons de cette incompréhension. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les autres. Et c'est vrai que c'est très frappant. Donc je crois qu'il y a une habitude de pensée qui s'apprend en particulier dans les écoles, qui consiste à raisonner sur des données macroéconomiques ou macro-politique, enfin globale, voilà, et à lire le monde à l'aune de cette vision-là, et à réduire d'une certaine manière les gens, et à travers des données quantifiées qui sont des agrégats économiques. Bon. Et la plupart des gens avec lesquels on discute sont pas du tout dans cette vision-là, ils ont leur vie à eux, et puis ils raisonnent beaucoup en termes de valeurs de société, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de société qui peuvent demain changer les choses, quelle peut être l'influence des gens pour améliorer la vie des choses, et puis effectivement, la vie des gens, et puis effectivement, comment demain on pense à nos enfants et comment on construit un chemin d'avenir. Voilà. Mais tout ça, ça implique un travail très lourd en réalité, où il faudrait pouvoir rapprocher les visions du quotidien, qui sont celles, au fond, les valeurs, les visions de la vie en société, des perspectives d'avenir, et puis ces réflexions qui sont souvent trop abstraites ou déconnectées, c'est vrai, de la vie des gens. Donc je crois qu'il y a aussi des raisons qui tiennent à des cursus universitaires ou scolaires.
Et c'est vrai que depuis hier, on entend des hommes politiques qui sont dans la vie politique depuis 40 ans nous dire « Ah bah oui, les Français, ils veulent du renouvellement ». Et c'est vrai que ça, c'est un peu gonflé quand même.
Ce qui est très frappant, ce qui fait réfléchir d'une certaine manière, c'est qu'émerge à l'occasion de ces élections, de cette élection de Donald Trump, la quasi-inéluctabilité d'une évolution similaire en Europe et en France. Et au fond, Trump a été élu, alors il y a le Brexit, et puis il apparaît quasiment
la marche suivante, c'est Marine Le Pen,
que la marche suivante. Alors, voilà. C'est possible, mais ce type de réponse est un peu étrange, car il pourrait exister aussi des réponses défensives, voire positives, pour essayer d'apporter autre chose ou de proposer des alternatives nouvelles face à cette situation, plutôt que de dire ah ben là, c'est la catastrophe, la victoire de Marine Le Pen est aux portes de.
Mais vous voyez un récit différent, vous, dans la vie politique française actuellement ?
Pour l'instant, il n'existe pas véritablement.
Justement, on parlait de vision, de force de progrès. Finalement, pour que Trump gagne, est-ce que l'erreur fondamentale, c'est pas celle des démocrates d'avoir mis Hillary Clinton en face? Ce que je veux dire, c'est que Clinton, elle a déjà perdu il y a 8 ans contre Barack Obama. Hillary Clinton, elle revient aujourd'hui, c'est l'incarnation justement du système, des élites qui reviennent, qui restent.
Message subliminal rien. Pour ceux qui n'arrivent pas à raccrocher, hein. C'est peut-être ça aussi, François Cusset.
Oui, il est certain.
Et après, on part au standard.
Il est certain que Bernie Sanders aurait gagné contre Donald Trump. Enfin, même voilà, après les sondages n'ont pas de valeur, mais sur vraiment à discours effectivement anti-système similaire, mais en fait totalement opposé, il l'aurait emporté. Ça, c'est
et sur le renouvellement aussi.
C'est certain. Voilà. Mais sur cette question des valeurs, c'est très très important, parce que il ne faut pas oublier que si la droite l'emporte dans la plupart des élections et dans la plupart des pays depuis tant d'années, voire de décennies, c'est parce qu'elle a gagné sur le terrain des valeurs. La gauche de pouvoir étant plus efficace économiquement du point de vue des élites financières, finalement, la droite n'a pas de solution économique. Par contre, elle se saisit de ces questions de valeurs. Aux États-Unis, c'est l'avortement, c'est le port d'armes, c'est la violence, c'est le risque de l'immigration. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses communes avec la France. Et elle occupe entièrement ce terrain dans les médias, face auquel voilà, la gauche, elle, n'est plus sur un terrain de valeurs, de forme de vie réelle, mais sur des ajustements économiques qui ne convainquent plus. C'est ce que concluait le journaliste américain Thomas Frank, qui se demandait pourquoi les pauvres votent à droite alors qu'ils votent contre leur intérêt économique. C'est quand même curieux.
Mais pourquoi ils votent pour un milliardaire? À propos du clivage gauche-droite, on repart au standard. C'est Benjamin qui nous appelle de Saint-Ouen. Bonsoir Benjamin.
Oui, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de la troisième voie initiée par Bill Clinton en 92-93. Aujourd'hui, on constate quand même que la gauche, la droite, comme vous le faites assez justement remarquer, c'est des gens qui bossent pour les banques. Sanders, qui n'a pas été candidat, se définissait comme le candidat anti-banque contre Clinton. Et Trump se définit lui-même contre les banques, contre Goldman Sachs, contre tous ces gens. Est-ce que c'est pas juste le rejet des banques et de la politique libérale qu'on nous refourgue et quand on traite d'imbéciles les électeurs qui votent pas comme les banquiers ont décidé, c'est-à-dire qu'on votait le Brexit, qu'on votait contre le TCE il y a 10 ans en France, et voilà, et après on est surpris, mais finalement c'est parce que les électeurs ne font pas comme le Parti démocrate ou le Parti socialiste souhaiterait.
Qui veut répondre à Benjamin?
Juste un mot rapide, il est certain que le fantasme de beaucoup, de là pour le coup des élites dans tous les pays occidentaux, c'est le gouvernement des compétents, c'est-à-dire des banquiers. Il y a quelques candidats, d'ailleurs, vous avez remarqué, même en France, là, pour les prochaines élections, qui viennent de ce secteur-là, et qui savent mieux. Et c'est au titre de leurs conseils judicieux qu'on a annulé, là, c'est un déni de démocratie, des résultats, par exemple, de référendums sur le traité constitutionnel européen, ou encore en Grèce, ça s'est vu il y a quelques années. Donc effectivement, là, les banquiers... Alors, il ne faut pas oublier un truc, c'est que Donald Trump a peut-être eu des problèmes avec ses banquiers quand il lançait des investissements multimillionnaires, mais en revanche, il fera croire à personne qu'il est anti-système, puisqu'il incarne le cœur absolu du système économique américain.
Alors on continue, il est 19h46 sur France Inter.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et on a Patrice en ligne qui nous appelle de la Meuse. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir. Bien, ma remarque vient en contrepoint de celle faite sur la démocratie américaine. Premièrement, il ne faut pas oublier quand même apparemment que la candidate démocrate a eu plus de voix en majorité donc par rapport à Donald Trump. Je pense qu'une démocratie exige que les électeurs se dotent dans la recherche de la vérité d'une véritable information, d'une diversité d'informations. J'étais effaré d'entendre ce matin sur France Inter avec Sonia De Villers que 40% des électeurs américains ne se sont informés que par Facebook et ont gobé, mais vraiment de façon incroyable, les théories du complot de Trump. Moi, je pense que ce n'est pas digne d'une démocratie, digne de ce nom, quoi. Je pense que le rôle des médias va être fondamental dans ce qui va arriver bientôt, en 2017, en France. Comme vous l'avez souligné, comme le disent souvent les analystes, on est dans une société mondialisée où les inégalités sont de plus en plus fortes. On a affaire à un corps social universel comme tout corps qui est malade, produit des pustules avec son cortège de racisme, de xénophobie, comme on le voit en Hongrie, en Pologne, et peut-être bientôt donc cette peste bubonique va venir en France en 2017. Et puisque vous avez parlé de Marine Le Pen, eh bien je crois qu'elle a révélé son véritable visage, et donc la mascarade peut-être qu'un jour va prendre fin. Quoi.
Merci beaucoup Patrice, et j'ajoute ce message de Patricia reçu par courriel. Elle s'inquiète elle aussi du risque de contagion des idées racistes et xénophobes de Donald Trump. C'est vrai qu'il a ouvert le robinet, hein, François-Michel Arty.
Oui, alors il y a eu trois étapes, on peut dire, depuis la crise de 2008, hein, sur la désignation des responsabilités de nos difficultés. Il y a eu d'abord effectivement le système de la finance, les banquiers, les traders, etc. Ensuite, il y a eu la désignation de tous ceux qui privilégient leur intérêt personnel au détriment de tous les autres. Alors c'est le patron voyou, c'est celui qui se lève tard, c'est celui qui bénéficie d'allocations et qui ne fait pas d'efforts pour retrouver du travail, etc. Et puis il y a une troisième étape dans la désignation des responsabilités de la crise et des difficultés que l'on connaît, qui est celle de la désignation de l'étranger. On connaît ça en Europe, et là aussi les chiffres sur les électeurs de Donald Trump sont quand même très frappants. Ce sont des électeurs qui massivement sont préoccupés par la question de l'immigration. Voilà. Donc bien sûr les trois strates du monde de la finance, des salauds entre guillemets, et puis de l'étranger se superposent en partie, mais il y a quand même eu une évolution, et aujourd'hui c'est surtout cette question-là. Ça dit quoi tout ça? Ça dit au fond qu'on a un immense besoin de sens. C'est-à-dire que depuis 2008, un, on n'a pas bien compris la crise de 2008, et deux, surtout aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi nos perspectives collectives et individuelles ne peuvent pas s'améliorer. Aujourd'hui, on a encore 60% des Français qui pensent que leur avenir sera moins bon que leur situation actuelle. Et qui, par ailleurs, estiment que la situation de la France décline année après année. Donc il y a un sentiment d'incompréhension en regard d'un imaginaire traditionnel de l'histoire de France et du récit français qui est celui d'une amélioration continue. Donc depuis en gros la crise de 2008, en partie avant aussi, mais on est en recherche perpétuelle d'un bouc émissaire. Donc ça nourrit aussi ces ressentiments et puis des votes tels que ceux qu'on peut les connaître aujourd'hui.
N'empêche que la réalité de l'actualité, elle est ce qu'elle est. Hein. Il y a un afflux de migrants en Europe. Il y a cette question de la mondialisation qui est posée. Ça veut dire que d'autres partis que le Front National ne répondent pas forcément bien à ces questions que les gens se posent.
Ça veut dire, je crois très simplement, que l'on manque d'une analyse et d'une vision de moyen terme ou de long terme. C'est-à-dire que d'ailleurs, si vous observez la plupart des débats politiques auxquels on assiste aujourd'hui, se pose la question, alors qui est certes importante, hein, de ce qui va être fait au printemps 2017 après une éventuelle alternance. C'est légitime et compréhensible. Mais la question qui se pose aussi est celle de la société dans laquelle vont vivre nos enfants, de l'économie de demain qui est dans une mutation. Vous voyez le travail que font un certain nombre de grandes entreprises qui est dans une mutation extraordinaire. Et le monde que l'on connaîtra dans 10 ans n'aura probablement rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Et pour l'instant, le discours politique, c'est vrai, est en deçà de cette perspective-là. Donc je crois qu'il y a tout simplement, et c'est tellement légitime, et c'est du politique pur, une soif de raisonnement et de discours sur du moyen terme, voire sur du long terme.
Et c'est le moment avec une élection présidentielle. Enfin, ça devrait être le moment. François Kessel.
Oui, il est d'autant plus répugnant, effectivement, de voir les discours de bouc émissaire refleurir partout, alors effectivement comme des fleurs noires, et tout le monde s'en saisit, enfin, de toute façon, que non seulement ils sont mensongers, hein, c'est le même mensonge des Le Pen, père et fille, depuis 30 ans, c'est-à-dire que les immigrés ne prennent pas les emplois. Bon, non seulement il défend le petit blanc contre un monde ouvert post-colonial, non seulement c'est répugnant, mais les responsables uniques de la crise immense, qui était la plus grande crise économique depuis les années 30, de 2008-2009, crise effectivement de basse intensité que tout le monde n'a pas ressenti, sont les banques d'investissement, les multinationales et effectivement les acteurs de la spéculation financière qui ont été non seulement pas inquiétés, au contraire des Roms, des réfugiés et des immigrés, mais encouragés. La plus grosse levée de fonds de l'histoire américaine a été faite par l'administration Obama, hein, malheureusement, on va le regretter, Obama, mais pas pour ça, de façon à les renflouer sans qu'aucune règle ne leur soit imposée pour la suite. Donc ça continue. Ça, c'était pourri, ça continue. Et j'ajoute juste une toute petite chose par rapport à la dernière question, c'est important. Peut-être que Donald Trump a l'air fou, peut-être qu'il l'est, mais là, il faut défendre quand même le système institutionnel américain mis en place il y a 2 siècles et demi, parce que il y a un ensemble de garde-fous qui font qu'un fou, qui a été prévu très clairement par Jefferson, Washington et ceux qui ont écrit ces textes-là, ne peut pas déborder, prendre le pouvoir et casser ces institutions-là. C'est disons, la seule chose qui peut nous rassurer dans le contexte actuel.
Un petit mot, Aurélien Colli.
Oui, sur la libération de la parole, en fait, ce qui arrive aujourd'hui, ça remonte à 2008. Souvenez-vous, en 2008, quand Obama est élu, émerge le mouvement des Tea Party. On est déjà dans les embryons d'un populisme qui va rester présent et qui va en plus être exacerbé par le fait, c'est peut-être un peu politiquement incorrect de le dire, mais par le fait qu'Obama soit noir. Non seulement Washington s'impose aux autres, mais en plus, c'est un noir. Et donc, il y a cette dimension quand même, qui n'est pas l'explication principale, mais qui a joué, j'en suis absolument convaincu aussi, dans le rejet du système central, de Washington, du fédéralisme, d'Hillary Clinton également, et dans le choix de Donald Trump.
Nous repartons au Standard de France Inter. C'est Daniel qui est en ligne. Bonsoir Daniel, on vous écoute.
C'est moi. Allô, bonsoir.
Et oui, c'est vous. Si vous appelez Daniel, c'est que c'est vous, c'est bon.
Ça, très bien. Bonsoir. Alors, je vous téléphone. Je suis, comme sûrement beaucoup de Français, exaspéré. Rassurez-vous, ça ne me fera pas voter Marine Le Pen, mais pas voter contre non plus. Depuis un an, mais bien avant aussi, des experts autoproclamés, politologues, éditorialistes, journalistes politiques, etc., instituts de sondage, nous annoncent que monsieur Trump ne passera jamais, c'est comme ça, nanana. En 2005, le non-référendum n'a jamais été possible, hein, comme ça. On s'aperçoit que c'est vérifié que M. Trump passe. Ces mêmes personnes reviennent, elles ont dit « bon, on s'est trompé, mais voilà, je vous écoute, ils sont en train de faire de nouvelles prévisions sur ce que sera M. Trump. Où est la cohérence, où est la fiabilité dans cette histoire ?»
Voilà, attendons. Si je vous comprends bien, Daniel, wait and see, on va voir ce qui se passe. Je vous coupe parce qu'il est déjà 54 et qu'on va quand même prendre aussi l'appel de Gildas qui nous appelle des Côtes d'Armor. Et puis ensuite, eh ben, on reviendra avec tous nos invités. Gildas, c'est à vous.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Je me posais une question toute simple et peut-être un petit peu plus simpliste, mais pour faire le parallèle entre les élections aux États-Unis et puis les futures élections en France. Est-ce que la seule chose aujourd'hui qui peut empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir ne serait pas le mode de scrutin des élections présidentielles en France, avec en particulier l'élection à deux tours ?
Bonne question, Gildas, qu'on va poser à François-Mickey Marty. Jusqu'à présent, effectivement, le Front National a pâti du mode de scrutin. Est-ce qu'un jour, il ne va pas en devenir bénéficiaire en France ? C'est une question qui se pose.
Il peut tout à fait. Lorsque l'on observe l'évolution des intentions de vote depuis deux ans, alors il y a des multiples configurations et cas de figure. Si l'on s'en tient à un cas de figure qui est posé de manière récurrente mais qui donne un indice sur l'évolution du rapport de force politique, c'est-à-dire une hypothèse de second tour Marine Le Pen face à Nicolas Sarkozy. On avait il y a un an et demi Marine Le Pen à 30-33%, aujourd'hui elle est entre 40 et 43%. Donc quand vous avez une candidate du Front National qui atteint dans des intentions de vote 40-43%, ça veut dire qu'on ne peut pas exclure l'idée d'une victoire du Front National. Voilà. Je voudrais revenir quand même sur le premier point qui est le monsieur que je comprends qui s'indignait au fond de ces personnes qui, je ne sais pas de qui il parle. Car il y a quelques instituts de sondage qui se sont trompés aux États-Unis, pas tous. Il y en a un en particulier qui s'appelle Dan Seif, qui a travaillé pour le Los Angeles Times et qui a obtenu d'excellents résultats. Donc pas tous. Et je peux vous assurer, ceux qui se sont trompés, on ne les entend pas beaucoup. Donc alors je ne sais pas, ils pensent peut-être à des personnes en particulier, mais je pense qu'il ne faut pas, justement, sur ces événements comme cela, globaliser et dire on est dans un monde où tout le monde se trompe et tout le monde raconte n'importe quoi. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il y a des gens qui ont des analyses assez fines et étayées. Et on peut remonter d'ailleurs un peu plus loin. Je ne suis pas ici pour faire la défense des sondages, mais enfin, globalement, en France, ils se trompent un peu moins qu'ailleurs. Mais y compris en 2002, lorsqu'on a dit les sondages en France se trompent, on avait quand même un Jean-Marie Le Pen à 14% des intentions de vote de deuxième tour.
Et on avait une alerte.
Et on avait une alerte. Et certains observateurs, je pense notamment à Gérard Le Gall, ont souligné, ont dit, tiens, le Jean-Marie Le Pen peut être présent au second tour. Mais simplement, on ne veut pas voir, je pense. Concrètement, on a des chiffres sous les yeux. Et je pense qu'il y a aussi cette idée qu'on ne veut pas regarder. Voilà. Donc, je voudrais simplement ne pas nécessairement mettre tout le monde dans le même panier et relativiser un peu les critiques.
Et bien, ce sera le mot de la fin pour vous, François-Mickey Marty. François Cusset, un petit mot. Et avec une petite question de Mathieu qui nous interpelle sur Twitter et qui nous dit, ça c'est une question pour vous, pourquoi en France, comme aux États-Unis, la société s'extrémise à droite et pas à gauche ?
C'est une bonne question.
Bonne question. Alors, vous avez malheureusement qu'une minute pour y répondre.
Alors attention, d'abord, s'extrémiser, c'est pas, il faut pas, surtout pas rabattre dos à dos ces deux extrêmes. Il n'y a pas d'extrême. En revanche, il y a des pratiques sociales et politiques. Il n'y a pas que le vote. C'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on est tous en train, médias, commentateurs, etc., de faire de ça le centre et d'ailleurs l'unique geste politique. Il y a beaucoup d'autres gestes politiques qui existent et qui font qu'il existe des forces de gauche réelles aux États-Unis. Et on fera pas de futurologie, non, parce que si on fait de la futurologie sur Trump, effectivement, si on applique son programme, c'est en gros la Troisième Guerre mondiale. Donc il va de soi que c'était des mensonges de campagne, voilà, des provocations. Et c'est ces mensonges-là contre lesquels il faut se battre. Moi, je crois qu'on a tous un devoir de réhabiliter une vérité face aux contre-vérités qui sont à la fois celles des candidats français dont on parlait à l'élection, avec le scénario cauchemardesque, effectivement, que l'effet Trump fasse gagner un certain ancien président aux primaires de la droite et qui se retrouve face à une candidate qui peut l'emporter, effectivement. Face à tout ça, ce sont des mensonges, de simples mensonges, enfin simples et compliqués, qui nous appartiennent à tous, alors là, vraiment élite et peuple, de démonter.
François-Mickey Marty, vous avez un petit peu de rab, 30 secondes, profitez-en.
Oui, je crois qu'il y a quand même un effet Trump à la fois qui peut décomplexer un certain nombre de perceptions, qui peut aussi donner le sentiment que, selon laquelle des votes contestataires appartiennent à l'avenir. C'est-à-dire, au fond, votre réactionnaire apparaissait jusqu'ici comme quelque chose qui appartenait un peu au passé, qui n'était plus une réalité d'avenir. Ça dit des choses nouvelles. Donc, je crois qu'effectivement, ça rebat en partie les cartes.
Voilà, il faut rester prudent. François Cussé, merci. François-Mickey Marty, Aurélien Colli, merci à toute l'équipe de l'émission. Ophélie Vivier, Nathalie Poitvin, Irène Ménem, Hugo Combe à la réalisation ce soir. Anne-Sophie Ladonne à la technique, Philippe Duclos, Arnaud Caillé, Patrick Henry, merci aussi aux standardistes.